Info Matin, Nicolas Legrand.
Un drame à Koumac, un homme de 45 ans a été mortellement attaqué par un requin malgré l'intervention de sa famille et des secours. Ce militaire du RSMA n'a pas survécu à ses blessures. Dans ce journal, vous retrouverez également la donne politique avant l'élection des membres du gouvernement mardi prochain. 4 listes ont été déposées sur le bureau du Congrès et on a donc déjà une idée de la composition de ce 18e gouvernement. Aux États-Unis, l'assaillant de la Nouvelle-Orléans était bien lié à Daesh. Il aurait agi seul. Le FBI a analysé des centaines d'heures de vidéos après l'attaque à la voiture bélier qui a fait 15 morts. Droit au but dans la lutte contre le narcotrafic. 35e visite à Marseille pour Gérald Darmanin, mais la première en tant que garde des Sceaux. Le ministre de la Justice a dévoilé ses ambitions pour lutter contre les cartels. Le sport et direction, le Wentoro avec la fin du BNC Tennis Open. Le dernier Français en lice, Constant Lestienne, jouera sa demi-finale ce soir contre l'Australien Moerani Bouzige, dont la maman est haïtienne. La météo sur l'ouest, le soleil continue de dominer. Ailleurs, les nuages prennent souvent l'avantage. Sur le sud-ouest, l'alizé d'est-sud-est se renforce avec parfois des rafales proches de 30 nœuds. Les températures maximales sont stables, proches ou localement sur l'ouest, au-dessus des valeurs de saison. Elles sont comprises entre 29 et 32 degrés, donc localement jusqu'à 34 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Infomatin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, avec cette attaque de requin qui a fait un mort à Koumac. À 16h45, hier après-midi, les secours ont été alertés que la victime de 40 ans, un militaire du RSMA, avait été mordu au niveau d'un de ses bras alors qu'il nageait près de l'île Okendek. Il a été secouru par sa famille et ramené sur leur bateau. Sa femme lui a appliqué un garrot pendant que leur fils les conduisait à la marina de Koumac où les attendaient les pompiers avec un avion médicalisé. Malgré l'intervention des secours, le décès a été constaté à 18h40. Toujours au chapitre des faits divers, le plan Orsec de niveau 2 déclenché sur le Grand Sud, un incendie qui menace le parc de la Rivière Bleue, Léo Fichou.
Et oui, il a débuté aux alentours de 15h mercredi avant de se calmer. Malheureusement, les flammes ont repris hier. Plus de 200 hectares de végétation sont partis en fumée. Hier, le feu n'avait pas encore atteint le parc provincial, mais les soldats du feu étaient inquiets. Le dispositif Orsec feu de forêt de niveau 2 a donc été déclenché à 16h30 et se poursuit aujourd'hui. Une quinzaine d'agents de la sécurité civile sont mobilisés, aidés des sapeurs-pompiers du Mont d'Or, mais aussi d'un hélicoptère bombardier d'eau. D'autres feux de brousse sont à signaler. Depuis hier, à Koné, un incendie a menacé des habitations du lotissement Kataviti et ravagé 4 hectares de végétation. Notre feu s'est déclaré au niveau du quai Manteau sur la commune de Païta. Les sapeurs-pompiers sont encore sur place pour surveiller ce feu.
Qui fera partie du 18e gouvernement? On a une idée un peu plus précise de sa composition depuis que les listes ont été déposées par les groupes politiques, Jean-François Bodin.
4 listes ont donc été déposées. Elles sont actuellement examinées pour validation par les services du Haut-Commissariat. Les loyalistes et le Rassemblement ont déposé une liste commune. Calédonie Ensemble a déposé une liste sur laquelle figure une personnalité de l'éveil océanien en position éligible. Le doute persistait encore sur la stratégie des indépendantistes, mais finalement, l'UC et le PALIKA ont choisi de déposer chacun une liste séparément, ce qui fait donc 4 listes. Comme chacune des listes, lors de la séance solennelle de vote au Congrès mardi prochain pour élire les membres du gouvernement, devrait faire le plein des propres voix de son groupe, on peut affirmer sans se tromper que le futur exécutif comportera 4 membres issus de la liste Rassemblement les Loyalistes, 3 membres de la liste UCFLNKS et Nationaliste, 2 membres de la liste Calédonie Ensemble Éveil Océanien et 2 membres de la liste Unis PALIKA. Chaque liste comporte 14 noms, 11 comme le nombre de membres du gouvernement, plus 3 noms supplémentaires. Et ce sont les personnalités qui sont en tête de liste qui seront élues. Ainsi, devraient être membres du futur gouvernement Alcide Ponga, Isabelle Champ-Moreau, Christopher Gigès et Thierry Santa pour la liste commune Loyaliste et Rassemblement. Isabelle Champ-Moreau, Christopher Gigès et Thierry Santa faisaient déjà partie du 17e gouvernement. Seul changement, l'absence de Johan Lecourieux, remplacé par Alcide Ponga. Philippe Dunoyer et Pételo Sao devraient aussi siéger au gouvernement, issu de la liste Calédonie Ensemble Éveil Océanien. Philippe Dunoyer avait déjà siégé au gouvernement dans la période d'instabilité de 2011. Quant à Pételo Sao, de l'Éveil Océanien, qui figure en deuxième place sur la liste, ce sera son premier mandat au gouvernement. Côté indépendantiste, on devrait retrouver pour la liste UCFLNKS et nationaliste Samuel Népéoun, Michael Forest et Gilbert Thuyénon. Samuel Népéoun visait, on s'en souvient, la présidence du 17e gouvernement, mais il avait dû renoncer après 5 mois de crise entre les indépendantistes et c'est Louis Mapou qui avait été élu. Louis Mapou, sans surprise, lui, ne retournera pas au gouvernement. Il avait en effet déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas siéger de nouveau. Et ce sont Adolphe Digoué et Claude Gambet, qui était d'ailleurs le directeur de cabinet du président Louis Mapou, qui devraient siéger pour le groupe Unipalika dans le 18e gouvernement.
On connaît donc la très probable composition du 18e gouvernement. En revanche, il est toujours difficile de savoir lequel de ses membres sera élu président.
Oui, le 18e gouvernement comportera 4 membres rassemblement loyaliste, 5 membres indépendantistes si l'on additionne les membres UC et Palika, et 2 membres issus de la liste Calédonie Ensemble et Veille Océanien. Dans ce cas de figure, la présidence pourrait se jouer entre Alcide Ponga, qui devrait être candidat comme cela semble se dessiner, et un candidat indépendantiste dont on pourrait imaginer qu'il soit Samuel Népéoun, ce qui justifierait son retour sur la liste UC. Il ne faut pas exclure non plus la candidature de Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble. La situation est complexe, car on imagine mal, au regard des tensions actuelles, les élus Palika voter pour un candidat UC, surtout s'il devait être soutenu par Calédonie Ensemble et l'Éveil Océanien. Et Alcide Ponga devra aussi trouver des soutiens pour être élu président. Nul doute que les discussions sont déjà entamées entre les groupes politiques pour envisager ces différents cas de figure et éviter les tergiversations que l'on a connues lors de la mise en place du 17e gouvernement en 2021. En raison des désaccords entre indépendantistes, il avait fallu 5 mois entre l'élection des membres du gouvernement et celle de son président. Un tel délai apparaît aujourd'hui évidemment impossible au regard des enjeux créés par les émeutes du 13 mai, qu'ils soient budgétaires ou liés aux discussions sur l'avenir. Surtout que la durée de vie de ce gouvernement, si les élections provinciales ont bien lieu comme prévu en novembre 2025, ne sera que de quelques mois.
Merci Jean-François Bodin. En bref, la province Sud annonce la suspension des rotations entre Nouméa et le Mont-d'Or. La décision a été prise après le constat d'une baisse de fréquentation des navettes maritimes d'urgence qui fait suite à la réouverture de la RP1 et l'élargissement progressif des horaires du verrou. Les dernières navettes navigueront aujourd'hui. Le système de rotation avait été mis en place le 14 mai dernier et a permis de transporter jusqu'à 3800 passagers par jour.
Radio Rythme Bleu, 6h37.
Pourriez-vous relever un défi pour ce mois de janvier, celui de passer un mois sans boire une goutte d'alcool? Depuis 2022, Léo Fichou, l'agence sanitaire et sociale, relaie cette opération sur le territoire.
Appelée Dry January, ou littéralement en français Janvier sobre, cette initiative venue d'Angleterre vise à inciter les consommateurs d'alcool à ne pas boire une goutte pendant un mois entier. S'il est difficile de quantifier le nombre de participants à cette opération, elle prend un peu plus d'ampleur chaque année et compte de nouveaux adeptes. Une bonne nouvelle pour Emmanuel Rivet, qui est responsable du programme de prévention des addictions à l'agence sanitaire et sociale.
En Nouvelle-Calédonie, les consommations d'alcool sont un problème de santé publique majeur, hein, comme dans le monde entier. C'est la deuxième cause de mortalité évitable, la deuxième cause de cancer évitable également. Mais effectivement, c'est aussi des consommations qui ont un impact important en matière de sécurité routière, de délinquance, de criminalité. Les consommations des Calédoniennes sont souvent importantes. Les adultes consomment en moyenne 7 verres standards par occasion. C'est encore plus important chez les plus jeunes, puisque les 18-24 ans peuvent consommer jusqu'à 10 verres standards par occasion, et que 30% des 16-18 ans qui boivent de l'alcool ont eu au moins une alcoolisation importante au cours des 30 derniers jours. Donc c'est important de faire des opérations qui mettent en avant l'intérêt d'avoir le contrôle de ces consommations.
Et parmi les bénéfices de cet arrêt temporaire de consommation d'alcool, on note notamment une meilleure qualité de sommeil, plus d'énergie, un meilleur système immunitaire, et puis également une diminution du stress et des risques de cancer.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et enfin, c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Tout d'abord, la réponse à la question d'hier à l'unanimité, les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le couvre-feu a contribué au fait que le réveillon du Nouvel An se soit passé sans débordement sur le territoire. Voici maintenant notre question du jour. Redoutez-vous une augmentation du nombre de cyberattaques en Calédonie dans les mois qui viennent? Si vous le redoutez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain, samedi, pour la réponse à notre question du jour. Et enfin, un rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. L'année 2024 s'est clôturée, une année particulièrement difficile, tant au niveau social qu'au niveau économique. Alors, quel bilan les commerçants en tirent-ils? Malgré la fermeture temporaire de certains magasins pendant les émeutes du mois de mai, y a-t-il eu un rebond en cette fin d'année pour la période des fêtes? Quelles perspectives envisager pour 2025? Nous en parlerons ce matin à 7h30 avec Ronan Delay, le président du syndicat des commerçants, qui sera notre invité du matin. En attendant, il est 6h passé de 41 minutes. Après la publicité, direction les États-Unis avec les suites de l'enquête sur l'attaque à la voiture Bélier à la Nouvelle-Orléans ou encore ce déplacement de Gérald Darmanin à Marseille, bien sur le thème des narcotrafiquants.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Chez Sima Quincaillerie, à partir du 2 janvier, c'est le mois des prix choc. La scie circulaire Makita, diamètre 190 mm, est vendue 16 600 francs, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur simac.nc. À Nouméa, Carrefour du 4e et à Koné, lotissement Katowice. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Savez-vous qu'il est préférable de ne pas dépasser de 8 degrés l'écart entre la température intérieure et la température extérieure ? Sachez aussi qu'une habitation bien isolée permet de gagner jusqu'à 5 degrés de température intérieure.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
Direction les États-Unis à présent, on en sait plus sur l'attaque qui a fait 15 morts et une trentaine de blessés à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. L'assaillant qui a foncé sur la foule avec un pick-up a été neutralisé par les forces de l'ordre. Les autorités ont donné une conférence de presse pour dévoiler les premiers résultats de l'enquête, Wilfried de Villers.
Eh bien, le FBI confirme ce soir que l'assaillant Shamsuddin Jabbar était bien membre de Daesh. Il aurait posté plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux quelques heures à peine avant son attaque. Le directeur adjoint du FBI, Christopher Raya.
Il y avait 5 vidéos sur le compte Facebook de Jabbar postées entre 1h29 et 3h du matin. Dans la première vidéo, il explique qu'il avait initialement prévu de nuire à sa famille et à ses amis. Dans une autre, il déclare avoir rejoint Daesh avant cet été. Il a également fourni un testament.
Après analyse de centaines d'heures de vidéosurveillance, le FBI est aussi en mesure de retracer le parcours du terroriste. Il serait parti du Texas, son état d'origine, le 30 décembre, à bord d'un pick-up Ford, le même qu'il a utilisé dans son attaque meurtrière, pour rejoindre la Nouvelle-Orléans le soir du réveillon. Avant de passer à l'acte, il aurait, selon les informations du FBI, placé au moins 2 engins explosifs sur Bourbon Street, en plein centre-ville de la Nouvelle-Orléans. Des bombes artisanales dissimulées dans des glacières et retrouvées aujourd'hui par les forces de l'ordre. Quant à d'éventuels complices, l'enquête se poursuit, mais à l'heure actuelle, rien n'indique que l'assaillant ait été aidé par d'autres personnes. Et puis, l'autre priorité de la journée, c'est de sécuriser la Nouvelle-Orléans, alors que la ville accueille dans quelques heures le Sugar Bowl, grand événement de football américain où quelques 80 000 personnes sont attendues, un match à moins de 2 km des lieux de l'attaque.
Wilfried de Villers pour Europe 1.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h43.
L'actualité en métropole et Gérald Darmanin qui veut montrer son intention d'agir. Nous sommes dans un point de bascule pour la République et donc nous devons collectivement nous réveiller. Déclaration du garde des Sceaux qui entame sa 35e visite à Marseille, mais la première en tant que ministre de la Justice. Un déplacement sur le thème des narcotrafiquants et il a fait la promotion de son idée de renforcer l'encadrement des trafiquants emprisonnés. Stéphane Burgat pour Europe 1.
Oui, car il n'est pas normal, selon lui, qu'aux yeux de l'opinion publique et par respect pour le travail des magistrats ou encore des surveillants pénitentiaires, que les trafiquants puissent gérer leurs deals, commanditer des assassinats depuis l'enceinte des prisons. Il souhaite donc lancer une expérimentation choc.
J'ai proposé que nous fassions d'abord une sorte d'appartement témoin, en prenant les 100 plus importants narcotrafiquants qui sont dans nos prisons. Je rappelle qu'il y a 17 000 détenus qui sont confondus pour trafic de stupéfiants. En isolant ces personnes, particulièrement en les fouillant et en brouillant particulièrement leur communication.
Gérald Darmanin qui veut s'inspirer des conditions de détention des condamnés pour terrorisme pour encadrer les trafiquants, mais cette proposition ne convainc pas les surveillants comme Marc Bercan du syndicat SPS au Beaumet. Il est impossible, selon lui, de dupliquer les conditions de détention de prisonniers comme Salah Abdeslam, par exemple.
Nos unités d'élite, en fait, le garder H24 avec des cellules vides à droite, des cellules vides à gauche, sa cellule au milieu. Donc, si vous voulez faire ça, je ne sais pas où vous allez faire la place.
Dans ses autres propositions, Gérald Darmanin veut améliorer la traque des biens mal acquis, améliorer la coopération judiciaire internationale, notamment à Dubaï où se cachent toujours des barons de la drogue.
Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1. En bref, alors que le premier conseil des ministres du gouvernement Bayrou se déroulera ce vendredi matin, Matignon annonce le report à la semaine prochaine de la présentation du projet de loi d'urgence pour Mayotte. Il s'agit de prendre le temps de la consultation avec les élus de l'archipel, selon Matignon. Un report qui n'aura pas d'impact sur son examen à l'Assemblée nationale, qui reprendra ses travaux le 13 janvier prochain. Et puis, c'est l'un des dossiers qu'aura à traiter rapidement le nouveau gouvernement en métropole. Fonderie de Bretagne, qui emploie 350 personnes dans le Morbihan, est menacée de fermeture. Et aujourd'hui, l'affaire prend une tournure politique, puisque des députés, mais aussi des représentants de syndicats, ont écrit à Emmanuel Macron pour lui demander d'intervenir. Ils dénoncent le désengagement soudain de Renault, l'ancien propriétaire. Alors qu'il représente 95% du travail de la fonderie, le constructeur français refuse de maintenir ses commandes jusqu'en 2028, ce qui a entraîné le retrait du repreneur potentiel de l'usine, un groupe allemand. François Méril, le président de la CFE-CGC, dénonce cette attitude de Renault.
Si Renault était une entreprise qui n'avait reçu aucune subvention de l'État depuis plusieurs années, si Renault n'était pas une entreprise dans laquelle aujourd'hui l'État est représenté au niveau des actionnaires, bah on pourrait dire effectivement il n'y a rien à demander à Renault, mais c'est évidemment pas le cas.
Et les signataires de la lettre appellent donc Emmanuel Macron à intervenir auprès du constructeur pour lui imposer le jeu du Made in France. Et enfin, un phénomène très rare en métropole. Certains de nos compatriotes ont pu observer des aurores boréales. De l'Indre à la Corse, en passant par les Pyrénées, de belles lueurs sont apparues. Évidemment, beaucoup de clichés ont circulé sur les réseaux sociaux notamment. Toutes les conditions étaient donc réunies pour permettre l'observation de ce phénomène très rare, Louise Salé.
Absolument, ces belles couleurs violettes sont visibles aujourd'hui grâce à un ciel dégagé, des nuits longues et surtout une intense activité solaire. Tous les 11 ans, il faut savoir que le soleil entre en éruption de façon régulière et c'est en ce moment. Milan Maksimovic est astrophysicien au CNRS.
Une éruption solaire, c'est une sorte d'explosion. Et lorsque cette éjectade de matière se dirige vers la Terre, eh bien, ça produit une aurore boréale. Ces particules retombent préférentiellement au niveau des pôles. Et quand la quantité est importante et la vitesse de cette éjectade de matière est importante, c'est là qu'on voit des aurores, donc en France, lorsqu'il y a une grosse éruption.
Et là, le soleil est dans une phase d'activité très intense, proche de son maximum. Il faut donc s'attendre à voir d'autres aurores.
Il est prévu que ce maximum arrive entre la deuxième moitié de 2025 et puis la première moitié de 2026. Et un bon moyen de voir des aurores en France, c'est de prendre son téléphone portable et de faire une petite photo de quelques secondes de pause. Et là, on voit apparaître l'aurore beaucoup mieux sur son téléphone portable.
Alors, ces lueurs rosées, très jolies, n'apportent pas que des bonnes nouvelles. Elles peuvent perturber la trajectoire des satellites et donc du réseau GPS et Internet.
Louis Salé pour Europe 1, il est 6h48, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Léo Fichou et notamment évidemment le BNC Tennis Open.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne ? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, première radio d'information.
La suite de votre journal avec le sport, Nicolas Legrand.
Et du tennis, on connaît les affiches des demi-finales du BNC Tennis Open et Constant Lestienne est le seul rescapé français, Léo Fichou.
Et oui, la tête de série numéro 8 du tournoi a réalisé une belle performance hier soir en battant le monégasque Valentin Vachereau, tête de série numéro 4 en 3-7. Le score 6-2, 4-6, 7-5. Malgré les fortes rafales de vent sur le court Ngaudrella, les deux hommes ont livré un gros duel. On écoute le français après la rencontre.
Très content de gagner à la fin. C'était dur de jouer contre Val. On a passé toute la semaine ensemble. On a mangé ensemble tous les jours, matin, midi, soir. On s'est fait un gros fight. Il y avait du vent, un peu moins au troisième, mais c'était dur. Ouais. J'ai réussi à pas exploser. C'était dur, la frustration, le vent, le scénario. Je crois que je me fais breaker 4 fois au troisième et j'arrive quand même à gagner. Donc c'est un peu un miracle. Dans ma tête, je me dis pourquoi t'es là ? Est-ce que c'est pour pleurer ou de battre, donc il y a des moments où on arrive à reprendre ses esprits, des moments où on n'arrive pas, donc c'est vraiment un travail dur mentalement. On a vu Fuskovic qui a brisé un cadre, Val pareil qui a logé une balle, moi qui ai acheté ma raquette, moi. C'était vraiment dur aujourd'hui.
En demi-finale ce soir, Constant Lestienne affrontera la surprise de ce tournoi, l'Australien Moerani Bouzige, dont la maman est haïtienne. 517e mondial, il a brillé hier soir face à la tête de série numéro 2 du tournoi, le Hongrois Marton Fuksovic. Victoire en 2-7, 6-3, 6-3. Moerani Bouzige, heureux d'avoir battu un joueur du top 150.
c'était bien pour moi. C'est le plus ranké joueur que j'ai gagné maintenant. Je crois qu'il est comme 104e au monde. Je ne croyais pas que j'ai gagné ce match avant que j'ai joué. Mais je suis vraiment content avec comment j'ai joué.
Moira Nibouzij, plus à l'aise en anglais pour terminer l'analyse de son match.
Ouais, les conditions étaient vraiment compliquées, il y avait beaucoup de vent, il fallait bien s'hydrater et je suis content d'avoir pu gagner dans ces conditions. Les dernières fois où j'ai joué, il y avait déjà du vent, donc je pense que ça m'a aidé cette semaine. J'ai vraiment fait de mon mieux et je me suis battu au fond du court, j'ai lutté face au vent, j'ai été agressif plus que lui et j'ai réussi à garder le contrôle du jeu.
Dans l'autre partie du tableau, c'est malheureusement terminé pour Enzo Cuoco, finaliste l'an dernier. Il est donc éliminé cette année en quart de finale. Défaite contre l'Autrichien Jurij Rodionov en 3-7, 6-4, 4-6, 2-6. En demi-finale, la tête de série numéro 6 sera opposée au Japonais Shintaro Mochizuki, tombeur de son compatriote Taisei Ishikawa en 2-7. Le score 6-3, 6-3.
Et un mot du tableau de double maintenant, il n'y aura malheureusement pas de Français en finale.
Et non, hier soir, Théo Arribagé et le Portugais Francisco Cabral se sont inclinés au super tie-break 6-4, 5-7, 6-10 contre Blake Beildon et le double tenant du titre Colin Sinclair. En finale, les deux hommes affronteront la paire japonaise composée de Ryuki Matsuda et de Ryotaro Taguchi, les Nippons qui n'ont pas eu à jouer leur demi-finale suite au forfait d'Enzo Cuoco et de Jesper De Jong, le néerlandais qui était blessé au dos. Et on rappelle que la finale du double aura lieu à 16h30. Elle sera suivie des deux demi-finales du simple. Et je rappelle également l'émission qui sera en direct du Wentoro dès 17h.
Et puis on vous retrouvera évidemment, Léo Fichou.
Bien évidemment, comme tous les soirs de cette semaine.
On termine ces pages de sport avec de la voile, 53e jour de course sur le Vendée Globe et le duel entre Charlie Dahin et Johan Richomme qui continue.
Charlie Dahin, grand favori de cette édition sur Massif Santé Prévoyance, garde la tête avec 34 000 nautiques d'avance sur Johan Richomme à bord de Paprec Arkea. Les deux hommes ne sont plus très loin de Salvador de Bahia au Brésil. Ils continuent leur remontée vers la ligne d'arrivée qui, on le rappelle, est au Sable d'Olonne. En troisième position, on retrouve toujours Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil qui navigue très près des côtes brésiliennes et continue de grappiller du terrain sur les deux hommes de tête. Il est à un peu moins de 350 000 nautiques du leader. Et puis l'info de ces dernières heures, c'est la détection d'iceberg par les skippers qui naviguent entre le point Nemo et la zone d'exclusion antarctique. C'est inédit depuis 2008 et ça ne rassure pas Eric Bellion sur Stand Azouane Altavia.
Vous voyez derrière moi là, à droite, c'est un iceberg.
Oh là là, ça fait peur. Hein.
Faut dire, on fait pas les malins, hein, le bateau et moi. Je vous rappelle, la coque de mon bateau, elle fait 3,6 mm d'épaisseur. Je peux pas me permettre de taper ça. J'espère qu'il n'y a pas de petits grôleurs, c'est des petits glaçons qui se détachent de l'iceberg. Ça fait super peur. Je m'attendais pas à voir un iceberg sur le Vendée Globe, moi. C'est bon les icebergs quand tu vas, mais avec des bateaux d'expédition, avec des coques en acier, pas des coques en carbone.
Et une dizaine de skippers sont actuellement dans la zone où les icebergs ont été vus. Je le rappelle, c'est au sud du point Nemo.
Merci beaucoup Léo Fichou, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin, temps très ensoleillé, en particulier sur l'ouest, et ça se voit déjà. Sur le nord-ouest et au Loyauté, des nuages circuleront, mais le temps restera sec. Sur l'ouest, le vent, lui, faible en matinée, puis les brises de secteur sud s'installeront autour des 10 nœuds. Ailleurs, la Lisée orientée est-sud-est sera généralement compris entre 10 et 15 nœuds. Cet après-midi, sur l'ouest, le soleil continuera de dominer. Ailleurs, les nuages prendront souvent l'avantage, mais quelques averses se développeront sur le relief et déborderont principalement sur le nord-est. De plus, quelques gouttes seront possibles sous le vent de marée et l'Ifou. Alors, l'Alizé pour cet après-midi orienté est-sud-est à sud-est, il se maintient autour des 10 à 15 nœuds. Sur le sud-ouest, donc il va se renforcer cette fois entre 15 et 20 nœuds avec parfois des rafales proches des 30 nœuds. Les températures maximales sont stables, elles sont comprises entre 29 et 32 degrés localement et jusqu'à 34 degrés, ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.